Santé.
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 C'est bon pour la santé.
Manger sainement.
La méditation.
Échanger avec les autres.
C'est bon pour la santé.
Respecter mon rythme à moi.
Le bénévolat.
C'est bon pour la santé.
On est de bien meilleure humeur.
J'adore cuisiner pour moi, pour mes enfants.
J'ai mille fois plus d'énergie que j'en avais avant.
Pas trop de sucre, pas trop de sel, pas trop de gras. Faut pas virer fou.
C'est meilleur pour la santé, oui.
Bon mercredi, j'espère que vous allez bien. C'est Marianne Taquette derrière le micro. Je suis avec vous pour les 30 prochaines minutes. L'émission C'est bon pour la santé qui débute à l'instant sur Canal M. Tout à l'heure, en deuxième partie d'émission, j'accueille un tout nouveau chroniqueur, Nils Oliveto. Il est consultant en performance humaine. On pourra voir qu'est-ce que ça fait sans un consultant en performance humaine. Également, c'est un éducateur physique et il sera là pour nous parler des bienfaits de l'entraînement pour les personnes qui vivent avec une déficience visuelle, des défis aussi parce qu'il y en a, il y en a beaucoup, mais surtout, surtout, comment on peut contourner ces défis-là. La sédentarité, ça a un impact direct sur tout le monde, sur toutes les populations, notamment sur les personnes qui vivent avec une limitation fonctionnelle. Et vous dire qu'actuellement, dans le monde, il y a 4 % de la population qui vivent avec une déficience visuelle. Ce sont les chiffres de l'Organisation mondiale de la santé. Et un tiers de ces personnes ont un mode de vie sédentaire avec tous les impacts que ça engendre. On en parlera tout à l'heure avec Nils Oliveto. Également, vous dire que depuis quelques années, les scientifiques s'intéressent de plus en plus à l'existence d'un deuxième cerveau. Et oui, nous, les êtres humains, on aurait un deuxième cerveau, et pas celui d'en haut, celui que l'on connaît, celui d'en bas, notre ventre, notre système digestif, on peut lui donner là, tous les noms qui nous passent par la tête. Et je voulais vous exprimer une image très forte que j'ai lue dans la revue Science Québec, à savoir que notre intestin renfermerait autant de bactéries qu'on trouve de grains de sable sur une plage de 1 km. Imaginez, c'est beaucoup ça. Et lorsque tout ça se passe bien, là, toutes les combinaisons de microbes dans notre ventre sont harmonisées, eh bien, on serait protégé de plein, plein, plein de problèmes de santé. Oui, d'une part, des problèmes gastro, les problèmes gastro-intestinaux, mais aussi d'autres problèmes de santé, l'obésité, la dépression et des maladies beaucoup plus graves, des maladies neurodégénératives, l'Alzheimer, Parkinson, sclérose latérale amyotrophique également. Donc, des bonnes raisons pour apprivoiser notre ventre, pour apprendre à le connaître, à l'aimer aussi. Et aujourd'hui, je vous propose de le faire par le biais du massage et de la philosophie orientale à travers le nouveau bouquin, en fait, le tout premier nouveau bouquin de Noémie Gélina, elle qui est massothérapeute, enseignante à l'Institut Kiné Concept et auteure. Noémie Gélina, bonjour.
Bonjour.
Un plaisir de vous recevoir en studio.
Merci
d'être là. C'est votre première fois.
Oui.
Et je suis très contente de faire ce baptême-là.
Première expérience à la radio.
Voilà.
Le lancement était hier.
Hier. Et premier livre aussi.
Premier livre.
Donc, Massage du ventre et philosophie orientale pour tous. C'est publié aux éditions de l'Homme. Et ce que vous dites d'entrée de jeu dans ce livre, Noémie, c'est que, bon, il y a plusieurs perceptions, les gens ont plusieurs perceptions par rapport à leur ventre. Certains le voient comme un simple organe, d'autres comme le deuxième cerveau, d'autres comme le centre des émotions. Ce que vous dites, vous, c'est que ça révèle les problèmes de santé, notre état de santé. Qu'est-ce qui vous exprime, vous? Comment vous voyez l'état de santé de quelqu'un par son ventre?
Bien, en fait, on n'est pas dans le diagnostic de l'état de santé, mais par la palpation, par le massage des organes, on peut arriver à percevoir si un organe, par exemple, pourrait présenter un excès. On peut penser au foie ou à la viscule biliaire qui, lorsque la bile n'est pas sécrétée suffisamment, elle peut devenir un petit peu plus engorgée, qu'on dit en médecine chinoise. Ça peut être au niveau des intestins un petit peu plus stagnant. Donc, on peut activer le mouvement intestinal par le massage du ventre. Il y a le stress qui peut particulièrement affecter l'organe de l'estomac. L'angoisse, l'anxiété peut amener l'estomac à être un petit peu plus rigide, un petit peu plus dur au toucher, un petit peu plus de sensibilité qu'on peut ressentir à notre estomac quand on vit ces stress-là.
Et vous arrivez à le percevoir au toucher?
Au toucher. C'est tout simple, hein? C'est pas ésotérique. C'est seulement qu'au toucher, il y a une petite résistance Donc, c'est plus dur au toucher, plus sensible chez la personne. Et puis, le ventre est super réceptif au toucher. Hein, simplement, la chaleur des mains peut amener l'organe vers la détente. Alors, juste un petit mouvement circulaire avec le bout des doigts, un massage peut vraiment aider à relâcher l'organe vers la détente, donc calmer le stress, comme les émotions d'angoisse et d'anxiété et diverses autres formes de stress. Ça peut aider aussi à libérer certaines stagnations qui causent des maux de ventre, des ballonnements, des gaz. Mm-hmm. Donc, on peut vraiment avoir... l'impact est indéniable. Vraiment, le ventre réagit très, très bien au toucher. Alors, pourquoi pas s'en servir? Pourquoi pas? Moi, j'ai envie de démystifier cette zone-là du corps qui est vraiment méconnue. Hein, les gens...
Et qui est souvent aussi pas... Je pense peut-être plus du point de vue des femmes, qui n'est pas souvent appréciée aussi.
Oui.
C'est une partie de notre corps qui, avec les grossesses, bon, qui est sans cesse en changement, que l'on doit apprivoiser sans cesse aussi. Donc, oui, apprendre à le connaître, mais à l'aimer aussi. Et une façon de le toucher, d'apprendre à le toucher pour se guérir, pour se sentir mieux, ben c'est une bonne façon de le faire.
Apprendre à reconnaître les signaux qu'il nous envoie. Hein? Puis le massage du ventre, c'est une méthode très, très simple pour prendre soin de soi, pour prendre soin des autres aussi. Hein? Donc oui, dans mon livre, je parle de l'automassage du ventre, comment prendre soin de soi-même, comment mieux comprendre son ventre et comment mieux comprendre le ventre et prendre soin du ventre des autres aussi. Pourquoi pas masser nos enfants qui peuvent avoir des maux de ventre pour diverses raisons, pour masser notre conjoint, notre conjointe, notre sœur, notre mère, pourquoi pas?
Est-ce qu'il y a des contre-indications? C'est-à-dire, est-ce que pour certaines personnes, le massage du ventre, ça serait pas tout à fait approprié?
Bien, on peut y aller avec plus de douceur chez les jeunes enfants, les personnes âgées, les personnes qui ont des maladies... grave, mais sinon, c'est très accessible quand même. C'est sûr que dans les situations de crise, comme le côlon irritable, maladie de Crohn, la diarrhée, donc on va pas... c'est une contre-indication, en fait. Donc, on va pas masser le ventre dans des situations de crise, mais sinon, on peut certainement avoir amené de la détente et c'est que du bienfait. Hein? Un beau massage... doux et jusqu'à résistance musculaire, tout simplement. Les gens, des fois, ont peur de masser ou ils ont peur de faire mal, mais non, juste d'être à l'écoute de ce qu'il y a sous les doigts et puis de faire notre toucher jusqu'à temps qu'on ressente une petite résistance, faire un petit mouvement circulaire avec le bout des doigts et puis l'organe, on l'entend, ça réagit, ça se détend, ça fait tellement de bien. Moi, je me suis fait masser toute ma vie par ma
mère. On l'apprend dès le début par votre mère, Yuki.
C'est naturel chez nous et puis c'est ça, mais je me rends compte que les gens, moi, quand je recevais des clients ou quand j'enseigne mes étudiants, on peut masser le ventre, Ou les gens me disaient, mais est-ce que je peux le faire moi-même? Ben oui! Est-ce que je peux masser mon chum? Ben oui, tu peux! Tu sais, c'est comme, je pense qu'il y a vraiment quelque chose à enseigner, puis j'avais le goût de partager ces connaissances.
Et tout ça crée le contact entre les êtres humains. Si on s'est un petit peu éloigné de notre enfant ou de notre conjoint, c'est une façon aussi de se réapproprier la relation. Oh, oui. Cette relation, vous l'avez de façon très, très étroite avec votre maman, qui est votre mentor, et on le voit, on le sent, on le lit dans le livre, vous avez baigné là-dedans et ça a teinté votre parcours. Vous avez même développé une nouvelle technique de massothérapie, Noémie.
Oui, j'ai été élevée un peu à travers l'approche du shiatsu de la médecine chinoise. C'est ma mère qui a amené le shiatsu, si on veut, au Canada. Elle avait ouvert la première école de shiatsu au Canada dans le début des années 80. Et puis moi, j'ai toujours été attirée, j'allais dans les classes et puis je me faisais masser. Je pense que j'avais le toucher aussi. Donc, j'ai été l'enfant des trois sœurs là, qui a voulu suivre les traces de ma mère. Et puis, dès l'âge de 17 ans, là, j'ai fait ma formation. À l'époque, elle avait son centre de shiatsu. Et puis... ensuite, je suis allée travailler dans les clubs Med comme géo. Et puis, j'ai dû adapter mon massage à l'huile parce que le shiatsu se fait par-dessus les vêtements sol, hein, de la façon traditionnelle. Donc, c'est comme ça qu'on l'enseigne. C'est comme ça le shiatsu traditionnel. Moi, j'aime bien travailler sur la table de massage et avec une huile de massage.
J'aime bien, donc, sur la peau directement à ce moment-là.
Donc, j'aime le shiatsu, j'aime l'approche de la médecine chinoise, mais j'aime aussi travailler en massage sur table de façon plus traditionnelle. Et lorsque je suis allée au Club Med, j'ai appris le massage lomi-lomi, qui est le massage traditionnel hawaïen qui se donne avec les avant-bras. On peut utiliser les coudes aussi. C'est un massage qui est très...
c'est assez
très
physique fluide. Aussi.
Oui, très thérapeutique aussi. Donc moi, j'ai toujours mélangé finalement les deux, le lomi-lomi et le shiatsu. Donc,
ce qui donne au fond le lomi-yatsu.
Oui, c'est ça. Voilà. Et finalement, j'ai toujours fait du lomi-yatsu. Et j'ai eu envie que ça devienne une nouvelle approche officielle. Donc, ça a été accepté par la Fédération québécoise des massothérapeutes. Je forme des massothérapeutes qui offrent le lomi-yatsu. Il y a des spas qui m'envoient leur masso pour que je puisse enseigner cette approche-là. Donc, maintenant, c'est offert dans quelques spas, cliniques.
Et vous l'enseignez aussi maintenant?
C'est ça. J'enseigne chez KinéConcept là, depuis 2009. Donc, c'est une nouvelle approche en massothérapie, le massage lomi-yatsu.
Donc, une façon de combiner les bienfaits du shiatsu et du lomi-lomi et de joindre aussi ces deux techniques-là.
De joindre ces deux techniques-là. De faire des liens à travers le massage avec la médecine chinoise, donc les points d'acupression, tous les liens qu'on peut faire sur le corps. Et le massage du ventre fait partie du protocole de massage du lomi-yatsu.
Mm-hmm. Médecine chinoise, vous en parlez beaucoup dans ce livre « Massage du ventre, philosophie orientale pour tous ». Vous êtes attirée vers cette forme de médecine qui est très, très loin de la nôtre ici en Amérique du Nord. Et finalement, je me rends compte qu'on en connaît peu de choses. Bon, on connaît le yin et le yang, mais sinon, bon, peu de choses finalement. Comment vous intégrer ou comment vous suggérez aux gens d'intégrer cette philosophie, cette médecine dans le quotidien?
Bien, en fait, la médecine chinoise, elle pose un regard très philosophique sur la santé, beaucoup à travers la dimension spirituelle, l'approche globale du corps, si on veut. Donc, c'est comme une philosophie de vie, incluant la dimension psychologique. Donc, comment l'impact des émotions, l'impact du stress sur le corps, sur notre vitalité, comment ça se manifeste. Donc, c'est beaucoup ça, la médecine chinoise. Donc, c'est des concepts d'interdépendance entre l'homme et son environnement extérieur. Donc, les facteurs internes, les émotions, le stress, et aussi les facteurs externes. Les Orientaux, depuis des millénaires, observent eux autres, leur sujet, là, c'est vraiment d'observer l'être humain en étroite relation avec l'univers qui les entoure. Oui. Donc, ça peut être les changements saisonniers, ce qu'on mange. Donc, c'est vraiment là, c'est ce qu'on entend par approche globale du corps.
Oui,
donc,
et vous le dites dans le livre, les saisons ont un effet sur notre état de santé, sur notre énergie. Mm-hmm. Lorsqu'on va voir le médecin ici, il ne nous dit jamais ça. Bon, c'est l'hiver, donc c'est pour ça que tu te sens comme ça.
C'est ça. Donc, c'est sûr que c'est des observations plus subtiles sur le corps, mais c'est très, très poétique même, presque, très philosophique. Pour ça, c'est une philosophie, la médecine chinoise. Donc, il y a des concepts, là, j'invite à lire presque comme si c'était de la philosophie sur le corps ou de la poésie sur le corps.
Et il est inscrit dans votre livre aussi que pour les Orientaux, être en santé, c'est pas nécessairement l'absence de maladie, mais plus un équilibre entre tous les éléments puis entre notre énergie. Ce qui n'est pas vraiment un concept qui est près de notre médecine ici. Hein. On va associer être en santé avec le fait de ne pas être malade.
C'est ça. Bien, les Orientaux, ils donnent une grande place aux soins de l'abdomen parce que pour eux, c'est les racines de la santé, nos organes. C'est le siège des émotions aussi. Donc, ils donnent vraiment une grande... Pour eux, c'est la base de passer par le ventre pour travailler sur la santé, pour atteindre l'esprit aussi. Le corps et l'esprit ne font qu'un, comme on dit en médecine chinoise. Donc, c'est l'un et l'autre. Donc, le corps agit sur l'esprit. Donc, l'influence de nos organes va influencer comment on se sent. Oui. Et vice-versa, comment on se sent va avoir un impact sur notre corps, donc notre ventre. Donc, c'est pour ça qu'on dit que le corps agit sur l'esprit et inversement, l'esprit agit sur le corps. Ces deux concepts-là sont interdépendants.
Est-ce que le massage du ventre, c'est plus, ça a plus un objectif curatif ou préventif, Noémie?
Ben, c'est les deux, en fait. C'est sûr que c'est très curatif. En prévention, ben, prendre soin de soi, s'assurer, comme hein, c'est la base de, nos, de la santé, de l'énergie vitale, hein, nos organes vitaux, donc d'aller s'assurer qu'ils sont détendus, que le mouvement intestinal se fait bien, que l'estomac n'est pas contracté, que la bile circule, que le foie n'est pas trop surchargé en excès. Donc, c'est très préventif. Parce que comme c'est la base, ben c'est important que nos organes vitaux soient sains et en santé. Et à travers le toucher, on peut le ressentir. Donc, un organe qui est sain, normalement, ça va être plus souple au toucher, moins de résistance, moins de sensibilité. Et puis, dès qu'il y a une petite congestion, on va le ressentir très facilement.
Et où on peut aller le masser parce que vous proposez des façons aussi de le faire dans votre livre. On peut le faire soi-même, là.
Le faire soi-même, oui, en automassage et masser les autres. Donc, il y a des techniques de massage qui sont proposées dans le livre. Et évidemment, c'est la base. Mais si on n'a pas le livre sous la main, on peut aussi y aller au feeling. Hein?
Ah oui. Mm-hmm.
Donc, c'est simplement de comprendre mieux son ventre, donc de comprendre mieux la localisation des organes, donc savoir qu'est-ce qu'on masse. Et puis... après ça, ben, c'est simplement de faire des pressions et puis avec des petits mouvements, donc de détendre au feeling aussi ce qu'il y a sous les doigts.
On se rend pas mal, là. Je veux dire, c'est impossible là, c'est si ça. On est vraiment à l'écoute, que l'on y va tranquillement, doucement.
Il n'y a aucun
risque.
Risque à avoir aucun. Donc, si on est à l'écoute, il y a aucun risque.
Vous parlez également dans le livre des sources qui peuvent, des différentes sources qui peuvent créer des déséquilibres. Il y a, le stress, vous en avez quand même beaucoup parlé, et on le sait, c'est très présent dans nos vies mouvementées en 2016. Est-ce qu'il y aurait d'autres sources qu'il faudrait peut-être éviter pour créer des déséquilibres, pour éviter d'en créer, en fait?
Mm-hmm. Bien, l'équilibre entre l'activité et le repos est très important en médecine chinoise, donc ne pas se surmener. dormir suffisamment, l'équilibre des émotions, apprendre à bien respirer. Donc, ça prend... c'est des choses simples, des fois, pour atteindre l'équilibre. Hein? Mais oui, les sources, les manifestations de déséquilibre comme ça sont bien expliquées dans le principe des cinq éléments de la médecine chinoise, qui est le dernier chapitre de mon livre. Oui. Donc, ça serait difficile de le résumer comme ça en quelques phrases, mais chacun des organes présente ses propres sources, pas ses sources, mais ses propres signes de déséquilibre. Et puis, chaque organe dans ce dernier chapitre est présenté. Donc, qu'est-ce que ça fait lorsque cet organe-là est en déséquilibre?
Oui.
Quel impact ça peut avoir au niveau psychologique, au niveau physique? Qu'est-ce qu'on peut ressentir? Ça peut même
être à la page 105. Je le sais parce que j'ai adoré ce passage-là.
Oui. Et puis, quels conseils? Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer l'état? On dit l'état énergétique de nos organes. Tout ça, c'est le principe, c'est la base de la médecine chinoise, le principe des cinq éléments.
Et chaque organe est associé à un élément aussi.
Oui. Chaque élément a deux organes associés. Mm-hmm. Chaque élément est présenté l'un après l'autre. Donc, comment chacun des organes sont vus par la médecine chinoise et leurs répercussions globales sur le corps.
En terminant, Noémie, le massage du ventre, c'est un petit peu moins fréquent, j'ai l'impression, ici, en Occident, en tout cas du moins qu'en Orient. Mais de plus en plus, comme je le disais en introduction, les scientifiques s'intéressent à la présence de ce deuxième cerveau. Vous en parlez aussi dans le livre de toutes les avancées scientifiques. Est-ce que vous pensez voir venir davantage de massage du ventre, que ce soit dans les différents centres ou dans la philosophie des massothérapeutes ici au Québec, puis ailleurs en Amérique du Nord?
J'espère, c'est mon but. Écoute, moi, je masse le ventre depuis toujours et puis vraiment, les gens sont surpris. C'est une révélation souvent chez les gens, chez les gens que j'ai massés, dans mes discussions avec chez mes étudiants, chez leurs propres clients. Donc vraiment, je pense que pour moi, c'est évident. Et puis les Orientaux, eux, le font depuis des millénaires. Il y a des techniques de massage qui ne se centrent que sur l'abdomen pour travailler la santé. Donc vraiment, mon but, c'est que tout ça se partage, perpétuer ouais. ces connaissances-là, les rendre accessibles, les démystifier. Et puis, que dans un massage, on puisse davantage masser l'abdomen. Oui. oui.
Et on peut s'initier à ces techniques avec massage du ventre et philosophie orientale pour tous. C'est votre livre, Noémie Gélinas. Vous êtes également massothérapeute, enseignante à l'Institut Kinéconcept. Merci beaucoup. Ça a été un plaisir.
Un plaisir aussi.
Votre quartier a mis en place une initiative pour améliorer le bien-être de ses citoyens. Vous avez adopté de nouvelles habitudes de vie et depuis, vous dormez mieux. Votre handicap ne vous empêche pas de suivre des cours de danse. Marianne veut tout savoir sur la santé. Partagez vos expériences à canalm@buzevoix.com ou par téléphone au 1-800-361-0635, poste 220. Suivez C'est bon pour la santé sur Facebook et Twitter.
Nils, bonjour.
Bonjour Marianne, ça va?
Très bien, Nils Olivetto, nouveau chroniqueur ici à l'émission C'est bon pour la santé. Nils, je le disais tout à l'heure, vous êtes consultant en performance humaine et on se demande un petit peu c'est quoi. On est un petit peu curieuse. Également diplômé de maîtrise en sciences en physiologie de l'exercice à l'Université d'Oklahoma aux États-Unis, éducateur physique. Bref, vous avez tout un CV dans votre poche. Rapidement, qu'est-ce que ça fait sans un consultant en performance humaine?
Bien, moi, je suis spécialisé en périodisation, c'est-à-dire tout ce qui est méthodologie de l'entraînement. Je l'ai surtout fait aux États-Unis, dans l'Ouest canadien. Donc, je suis. On m'a consulté dans le passé sur différents aspects de l'entraînement au niveau de l'organisation, de la méthodologie, de l'entraînement de résistance. Et il y a même des éléments de psychologie sportive qui rentrent là-dedans. Donc, voilà. J'ai eu des athlètes de haut niveau qui m'ont approché, qui étaient déjà très bons, qui m'ont dit bon, ben, qu'est-ce que
tu peux faire?
Je veux être meilleur. Qu'est-ce qu'on peut faire? Voilà.
Vous êtes ici pour nous parler aujourd'hui de comment. Bon, on peut s'entraîner, être actif, faire du sport lorsque l'on vit avec une déficience visuelle. Et en premier lieu, on se dit, ben, si on vit avec une déficience visuelle, ben, on peut se mouvoir quand même, mais il y a quand même beaucoup de défis lorsque l'on vit avec un handicap visuel, lorsque vient le temps de faire de l'activité physique.
Il y a énormément de défis, mais l'enthousiasme de quelqu'un qui veut commencer, débuter l'activité reste le même. Et c'est certain, bon, par exemple, cet été, les Jeux paralympiques auront lieu en septembre à Rio. Et on observe qu'à chaque année olympique, il y a un niveau d'engouement dans le désir de pratiquer un sport qui monte d'un cran pour tout le monde, chez monsieur, madame, tout le monde. Et ce niveau de motivation est également très présent chez les sportifs amateurs avec un handicap physique.
Oui.
Mm-hmm. Alors, pour les besoins, alors, je suis ici pour ça, je vais cibler les principes d'entraînement d'un sportif amateur avec une déficience visuelle.
Mm-hmm.
Mais il faut préciser, d'abord et avant tout, que les principes de l'entraînement physique des personnes déficientes visuelles sont très similaires à ceux qui président à l'entraînement des personnes sans handicap, avec quelques facteurs. Et c'est là qu'on vient démêler tout ça.
Mm-hmm.
C'est très semblable, mais il y a des facteurs qu'il faut prendre en considération.
OK. Mettons, qu'est-ce qu'il y aurait de semblable si on met la table?
Bon, un athlète, c'est un athlète. Le corps humain est le corps humain. En termes d'exécution, les fonctions physiologiques restent les mêmes. Et ce sont, lorsqu'il y a un handicap visuel, c'est un obstacle en plus qu'il faut prendre en considération et qu'il y a un ajustement à faire.
Oui.
Mais au départ, c'est très semblable.
Les ajustements, bon, j'imagine, équilibre?
Bien, on va commencer tout de suite avec le manque de repères visibles.
Ah, OK.
Alors, on va y aller là-dessus. Il y a un lien avec l'équilibre et on va y arriver. Mais il faut savoir que l'apprentissage des habiletés physiques est particulièrement difficile en l'absence de modèles et de repères visibles chez les personnes non-voyantes, pour des raisons évidentes. Et certaines recherches scientifiques avec des enfants ont démontré que pour maîtriser une nouvelle habileté, un enfant qui a une déficience visuelle doit faire jusqu'à 8 fois plus d'essais qu'un autre enfant.
Ah oui, demande beaucoup de persévérance.
Voilà, donc les débuts sont difficiles, ça prend beaucoup de pratique. Par contre, et là c'est vraiment impératif de le mentionner, Le niveau de maîtrise technique acquis suite à un très grand nombre de répétitions par un sportif avec une déficience visuelle peut être égal ou même éventuellement devenir supérieur à un sportif possédant une vision parfaite. Et beaucoup d'exemples là-dessus au niveau, si vous regardez les athlètes de niveau paralympique,
oui.
Ce sont les meilleurs exemples à prendre là-dessus et il y en a plusieurs.
Oui. Donc, l'absence de repères visuels, ça, c'est un obstacle. L'équilibre.
Oui.
Également.
Oui.
Est-ce qu'il y aurait d'autres obstacles?
Il y a l'aspect musculaire qu'il faut prendre en considération. Alors, un sportif non-voyant va accumuler une tension musculaire résiduelle plus élevée en raison de l'absence de rétroaction visuelle. Alors, quand on parle de rétroaction visuelle, on parle tout simplement de l'utilisation de points de repère visibles, chose qui ne peut pas être faite, encore une fois, pour des raisons évidentes. Le manque de repères visibles entraîne une dépense d'énergie qui est plus élevée pendant un entraînement. Donc, le coût métabolique de l'activité physique est souvent plus élevé chez les sportifs avec une déficience visuelle que pour les sportifs voyants. Et d'ailleurs, je voulais faire une petite expérience ici en studio.
Il nous reste 2 minutes, on a le temps.
On a le temps. Alors, une petite expérience. Vous êtes présentement assise. Ça va démontrer un peu mon point. Vous allez tout simplement, en deux temps, vous lever et être en équilibre. Alors, je vais observer, je vais commenter ce que je vois. Vous êtes levé.
Donc, je lève une jambe.
Vous levez une jambe. Et là, vous êtes présentement en équilibre. Et là, il y a une recherche d'équilibre qui se fait. Ça a pris une seconde et demie à faire et vous êtes en train de maintenir cet équilibre-là sur une jambe. Vous ne bougez pas. Donc, c'est très bien. Vous allez vous rasseoir. Et on va refaire exactement le même mouvement qui est très simple. Vous êtes d'accord? Mais cette fois-ci, vous allez fermer les yeux partir de votre chaise.
Restez 1 minute et demie. On y va.
Allez, on y va. Vous allez vous lever. Les yeux fermés. Marianne a les yeux fermés présentement. Elle s'est levée avec difficulté. Elle cherche son équilibre, elle tremble beaucoup. Il y a beaucoup de choses qui se passent, mais l'équilibre, on est presque tombé et elle va se rasseoir.
Mon
voilà.
Prof de yoga ne serait pas fier de moi.
Mais ça démontre, alors voilà l'exemple que je voulais démontrer, ça a démontré un effort de proprioception qui est beaucoup plus élevé à l'absence de cette rétroaction visuelle.
Tout de suite, c'était très perceptible pour avoir vécu l'expérience, Nils. Il reste 1 minute, je veux juste qu'on se laisse quand même sur un message positif. Pour les personnes qui vivent avec une déficience visuelle, il faut quand même tenter de bouger, d'être actif.
Absolument, absolument. Soyez actif, ça ne devrait pas vous empêcher. Ayez, moi, que je donne comme conseil, d'avoir un partenaire d'entraînement.
Idéalement,
un sportif voyant qui pratique le même sport que vous, qui peut vous aider avec la motivation, l'aide logistique, et qui peut vous observer au niveau technique également lors de la pratique sportive.
Pour éviter les blessures.
Exactement.
Tout à fait, parce que bouger, on le sait, c'est bon pour la santé. Nils Oliveto, première chronique, merci beaucoup.
Merci
également consultant en performance humaine et plein d'autres belles choses. Ça a été un plaisir, merci.
Merci.
Merci Jean-Sébastien derrière la console qui riait de moi, on doit l'avouer. C'est Marianne Paquet derrière le micro. Merci d'avoir été des nôtres. On se donne rendez-vous, nous, demain, 14h. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye.